Je me réveille. Je me lève. Je croise les regards habituels des gens avec qui j'ai décidé de vivre et qui je supporte encore de vivre. Est-ce que je supporte ma vie, les gens avec qui je suis, mon chien, mes enfants, mon lit, les rituels de la vie? Est-ce que je m'ennuie dans cette toute petite vie, pas d'attaché caisse quand j'étais petit? Pourquoi je me lève? Pour qui? Qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je suis ici? J'enchaîne les mouvements sans répit, les rituels de la vie, les petits riens, les petites choses. La vie, c'est pas toujours rose, et ça continue et ça s'enchaîne. Le pain, le beurre, la porte qui claque. Dehors, il pleut, beau soleil, nuages, neige, froid, chaud, humide, sec. Je m'en fous, je ne suis pas une plante verte. J'ai une âme, un esprit, des espérances. Je suis un être humain, je choisis où je suis, pourquoi, ce que je vais faire de ma vie en France. Allez, vas-y, avance. Va vers la chose qui se profile. Tends la main, attrape. Les choses sont comme des fruits. Ta bouche est là, la salive, au coin l'envie, qui recommence et qui se pointe. Allez, oui, allez, ça continue, ça s'enchaîne. Allez, c'est bien. Ça commence à prendre un rythme différent. J'habite chaque mouvement. Je suis pas si mal. Je décide, je souris. Ah oui, c'est vraiment ma vie. Featuring Lord Peter Wonky. Salut Peter Wonky. T'as accepté de venir dans mon freestyle, quoi, dans mon impro. C'est super cool parce que chez toi, Atlanta, tu as bossé avec les plus grands.
J'ai bossé avec les plus grands et c'est vrai que là, je comprends pas vraiment ce que tu dis, mais je me sens bercé par l'odeur de ton.
T'aimes bien le flow, t'aimes bien le.
J'aime bien le flow.
T'es un mec cool, t'es un. Non, pas trop.
Pas trop.
T'es un con.
Ouais. Même plus ça. Je comprends pas, mais oui.
Ouais, mais moi aussi. Alors, à tout de suite avec Thierry.
La composition du gouvernement sera dévoilée à 15h cet après-midi. L'annonce, elle devait être faite déjà hier, hein, mais elle a été finalement retardée. Certains parlent d'un coup de com', parce qu'on va retenir que ça. Le temps de procéder aux vérifications fiscales, en fait, est déontologique des futurs ministres. Il s'agit notamment pour Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe d'éviter tout conflit d'intérêts. Notre acte entourage de Nicolas Hulot faisait état hier soir de discussions avec Emmanuel Macron pour que l'écologiste entre au gouvernement, même si pour l'heure, rien n'est encore acté. En attendant, le fait politique de ces dernières 24 heures, c'est notamment Manuel Valls, de plus en plus protégé dans son fief de l'Essonne. Après La République En Marche, c'est le PS qui, à défaut de l'investir, ne présentera aucun candidat contre l'ancien Premier ministre aux législatives. Le ton monte au sein de la droite à propos de ces législatives, entre ceux qui acceptent la main tendue par le chef de l'État et ceux qui la refusent. Tous les candidats LR, UDI aux législatives sont invités à signer un appel contre le projet du mouvement La République En Marche. Dans la Creuse, les salariés de GMS en appellent à Emmanuel Macron à l'approche des législatives. Les 279 salariés de l'équipementier automobile placés en redressement judiciaire jouent leur va-tout pour sauver leur entreprise. Les déclassés de la SNCF demandent réparation après 40 ans de discrimination. La justice française a examiné le dossier de 800 Chibani, ces cheminots marocains qui disent avoir été spoliés par le groupe public. Ils seront fixés au mois de janvier 2018. Donc, chaque jour, de nouvelles révélations viennent ternir un peu plus la crédibilité de Donald Trump après les révélations du Washington Post dont on parlait hier sur la divulgation d'informations classifiées à un ou des dirigeants russes. Le New York Times affirme aujourd'hui que le président américain a demandé en février à James Comey, qui était encore directeur du FBI, de laisser tomber une enquête sur l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Le coup d'envoi aujourd'hui du 70e Festival de Cannes. L'événement va s'ouvrir avec hors compétition le nouveau film d'Arnaud Desplechin, qui d'ailleurs est sur les écrans aujourd'hui, partout en France. Les fantômes d'Ismaël, c'est le nom de ce film. Rappelons que c'est Pedro Almodovar qui va présider le jury du Festival de Cannes cette année. Et puis Monaco reçoit Saint-Etienne ce soir. C'est un match en retard de la Ligue 1 qui pourrait permettre à Monaco d'être sacré champion de France. Il suffira en effet d'un match nul au Monégasque. Qu'il reste, je vous le rappelle, une journée de championnat et Monaco dispose de 3 points d'avance sur le PSG. Autrement dit, un point ce soir et Monaco ne pourra plus être rattrapé.
Mais alors en fait, une fois qu'on sait tout ça, c'est, au fond, on se dit quoi? On se sent plus habitant de la Terre?
On peut
ça nous fait des sujets de conversation pour les au bureau, dans et la vie.
La machine à café,
c'est un bon fond de sauce pour
c'est
démarrer.
C'est pour habiter tous ensemble qu'on a besoin de ces 5 informations essentielles. Ou est-ce que ça nous pollue? Est-ce que ça nous envahit? Est-ce que ça nous remplit?
Moi, je trouve, peut aider à dormir, Monaco, pour tourner ce coucher.
Monaco qui reçoit Bordeaux?
Saint-Etienne.
Saint-Etienne. Ouais. On s'imagine, je sais pas ce qu'ils ont préparé à manger.
Alors vous, ça vous fait partir sur la nourriture tout de suite? Oui, vous voyez plus ça. Oui. Oui. Évidemment, c'est pas. Et vous, Atmen ?
Moi, Manuel Valls, là, qui, en face de lui, il a quand même Francis Lalanne, là, qui vient de.
Oui, vous allez peut-être prendre tous des cafés. Attends, c'est ça qui va se passer.
C'est un suppléant, là. Oui, oui. Non, mais il est là, quand même.
Alors, il y a vraiment de la voix éveillée. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Écoute-moi, pareil, ouais. T'es un prince, t'es un seigneur de l'info, t'es un génie, t'es un grand. Parce que ce que tu donnes là, sur le foot, la politique,
c'est
cadeau ce que tu fais pour le jeune.
Monde, hein.
Non, wow. T'es là, tu pourrais garder tout pour toi, par-devers toi, je dirais, dans ton petit camp à soi. Et tu le donnais, encore. Tiens, un truc sur Macron, c'est cadeau, je donne. Lui dans le poil, l'Express, le Monde. Allez, des trucs un peu cracra dans Voici Closer. Cadeau. Et tu baisses pas ton froc devant les politiques. Ah, enfin, de temps en temps, quand même. De temps en temps, un petit peu.
Parce que
hier, il y avait le maire de. T'étais quand même pas tout le temps. On verra à 7h30 pour le journal. Connaître les dessous, les secrets du monde, ce qui est caché derrière le petit muret du monde, ce sont les connoisseurs qui le pratiquent le mieux. Tous les matins, des hommes et des femmes habités de leur seule envie de partager viennent avec des journaux, des petits mémos, avec des petites nouvelles internet, avec des surprises de chez eux. Bonjour Arnaud Aymar.
Bonjour Edouard.
Edouard Baird. Oui. Vous êtes nourri de beaucoup de choses ces jours-ci, depuis une semaine que nous n'avons pas vu.
Je ne me nourris que d'informations.
Et tout fait information chez vous. Vous arrivez, vous faites feu de tout bois. Et même, par exemple, la voisine, par exemple, le fait que notre rédacteur en chef Thomas Baumgartner soit aujourd'hui père d'un petit Jonas, paf, ça vous fait rebondir.
Ça me donne tout de suite l'envie d'en parler direct.
Direct. Ouais. Ça vous donne envie, vous aussi, d'allaiter, parce que vous êtes faire partie du mouvement des hommes qui demandent le droit d'allaiter. On y
revient. Puisque je suis à la tête d'une entreprise de fromage de lait d'homme.
Oui, ça me fait moins rêver, là. Et on est aussi avec Atmen Kelly. Bonjour, Kelly, vous savez qu'il y a eu deux naissances, puisque vous avez aussi Mélanie Mallet, la mère d'une heureuse Céleste. Il y a beaucoup de naissances.
Il y a le même jour.
Et pendant ce temps-là, nous, comme des cons, on est là. Non, c'est là, le même mois. Qu'est-ce que vous avez pris, vous, dans la presse ce matin?
Non, moi, j'ai regardé un truc sur le festival de Cannes, là.
Jonas et Céleste, déconnez pas. Oui.
Sur le festival de Cannes.
Le festival de Cannes, vous aimeriez bien y aller.
Oui, voilà. Mais j'ai été puni parce que je n'ai pas assez bien travaillé.
Non,
fait le film qu'il fallait.
Non, ça, j'ai vu votre filmographie, vous ne le méritez pas.
Non, pas du tout. Non. Mais une carrière sans nanar, c'est une carrière suspecte, comme disait Jean Rochefort.
Enfin, voilà, que des nanars.
Non plus. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous auriez choisi?
Non, j'ai appris que c'était le 70e et que la Palme d'Or a failli être attribuée en 1947. À un russe, mais quand c'était à la sortie de la guerre, ils voulaient le donner aussi à un américain, donc c'était déjà la guerre froide, donc ils l'ont donné à un français. Arbitre, à l'époque, c'était la bataille du Rail. J'ai appris ça, ça m'a fait rire.
De René Clément, la
voilà, c'est ça, tout à fait. Et pour faire peur aux Russes, les Américains avaient amené un sous-marin dans la baie de Cannes, militaire, pour leur faire peur. J'ai appris ça hier en regardant une émission.
S'ils avaient eu la palme, ça partait.
Comme Kim Jong-un, là, qui balance des trucs dès que... Hein.
On va pas commencer à se disputer sur les prononciations du dictateur nord-coréen.
Céleste, Jonas, c'est des beaux prénoms.
Ça peut aller très loin.
C'est donc, barbare,
qu'est-ce que vous avez d'autre sur le festival de Cannes, Atmen?
Mais que j'y suis pas, que j'aurais aimé.
Parce qu'il
y en a
des bonnes anecdotes. Celle-là, pardon, n'est pas la meilleure.
Oui, non, mais 70 ans, je veux dire comment ça s'est passé. Qui était le jury? Qui était le président du jury?
C'était Cocteau.
Voilà. D'où l'expression qui avait démarré. Voilà.
Un cocktail
des cocteaux, parce qu'il avait fait le truc, voilà.
Bien.
On finit là-dessus.
Donc c'était la première année du festival de Cannes qui devait avoir lieu avant la guerre et puis qui s'est arrêté.
Et puis c'était
contre le festival de Venise qui était lui le festival des fascistes italiens. France voulait son festival.
Mais vous en savez plus que moi.
Je peux dire que j'ai couché utile dans ma vie. Oui, je vais y aller, mais pour Nova.
Je suis dans votre valise.
Mardi et mercredi matin, je serai en direct d'une chambre d'hôtel à Cannes, mais c'est pour Nova, attention.
Quel hôtel?
Je prendrai ce qu'on me donnera.
Attention, Nova, c'est Novotel.
Non, mais j'ai présenté ce festival il y a quelques années. Alors parfois, par gentillesse, ils me donnent un morceau de pain, une assiette, une chambre d'hôtel. Marie Misset.
Presque le festival de Cannes. En fait, il y a un autre festival de cinéma qui se termine aujourd'hui, donc il se passe le relais. C'est dans la bande de Gaza. C'est la troisième édition du festival de cinéma de la bande de Gaza. Alors, ils avaient mis un grand tapis rouge pour toute la population. Alors, pas comme à Cannes, hein, tout le monde pouvait marcher sur ce tapis rouge. Et dans Libération d'hier, il y avait des interviews des organisateurs épuisés, qui étaient très heureux, mais pour qui c'est un casse-tête pas possible entre les autorités, les gens d'organiser ce festival. raconte par exemple que pendant les projections, t'as les organisateurs qui éteignent la lumière pour faire comme dans un vrai cinéma, et puis les mecs des autorités qui la rallument parce qu'ils veulent pas trop que les gens soient dans le noir. Donc ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Ça gêne pas trop les spectateurs qui eux sont super heureux parce qu'il y a plus de cinéma en fait dans la bande de Gaza depuis les années 80. Il y avait 5 salles de cinéma, elles ont fermé. Pas parce qu'elles ont été interdites, mais parce que dans les troubles de la deuxième intifada, etc., c'est devenu impossible à tenir. Et donc, il y a un beau témoignage, par exemple, d'un mec de 25 ans qui dit voir ses films, c'est vraiment comme si j'allumais une bougie au milieu d'une coupure de courant. Je vois de la lumière dans le noir. Et là-dessus, t'as un organisateur qui est très heureux parce qu'il dit, c'est ça qu'on essaye de faire, de remettre un petit peu de lien de gens qui regardent des films ensemble dans, je cite, des décennies de violence qui avaient réussi presque à les anéantir, ces liens. Donc, ça se termine aujourd'hui, le festival de cinéma de la bande de Gaza.
Merci Marie Missé. On en parlait tout à l'heure, le message le plus tweeté de ce mois-ci, c'est un mec, un Américain qui s'appelle Carter, comment il s'appelle, Wilkinson, je crois. Wilkinson, Carter Wilkinson a eu l'idée de demander à une marque de hamburger, c'est Whoopi. Moi, j'aime bien l'information approximative. Le mec, il se lance un peu dans l'info. Il y a déjà deux erreurs en deux mots. Il a posé une question idiote par Twitter. Ne faites pas ça, n'allez pas parler aux marques de hamburger sur Twitter. Il lui a demandé combien de tweets dois-je recevoir pour avoir une année de poulet frit gratuit. Wendy, je lui ai répondu 18 millions. Il a dit, considérez que c'est fait. Depuis, ça y est, je crois, il a 18 millions.
On est à combien?
Donc, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on en tire, au fond? Vous voyez, là, il y a la foi. Et après, ce qu'on en tire, c'est, je crois que cette lutte contre les multinationales passe, bien sûr, par une réunion de nous tous. Hélas, aujourd'hui, notre seule révolte a lieu dans la consommation et plus dans l'élection, puisqu'aujourd'hui, notre seule façon de nous faire entendre et de boycotter ou d'enthousiasmer dans la consommation, c'est en mangeant ceci ou cela, en acceptant d'acheter ceci ou en refusant d'acheter cela, qu'on se fait le mieux entendre aujourd'hui.
Mais c'est un mec qui s'est réveillé le matin et qui s'est dit, voilà, considérer que c'est fait, elle est magnifique la phrase.
Considérer que c'est fait, je
considérer que c'est fait. Par contre, c'est pas du tout
considérer
fait encore.
Non, il a 4 millions.
Il est à 4 millions, c'est
mais,
ça.
Mais, oui, mais il a gagné parce que la marque de hamburger lui a dit oui. Je travaille sous le contrôle de Thierry Paré qui est resté dans la pièce. Dès qu'il s'agit d'infos, il a décidé de dire oui ou non. Hein, on est comment?
On est très bien, c'est Edouard qui a raison.
Titi.
Et la forêt, et la forêt vierge.
Et pourquoi t'as un t-shirt Stup Flip?
Parce que j'aime bien ce groupe.
Ah oui, d'accord. Oui, alors il y a plus de forêts. Il vous en reparlera dans le journal de 7h30. Il y a plus de forêts. On s'est aperçu par satellite qu'il y avait beaucoup de forêts qui étaient cachées parce que c'était des forêts de baobabs sans feuilles et donc les satellites ne les avaient pas vues. On verra.
C'est surtout des forêts qui étaient. Je vais essayer de parler lentement pour baisser le rythme parce que comme ça on voit que c'est moi qui parle. Et c'est pas réel. C'est évidemment, il y a de la canopée en plus. C'est qu'en fait, on n'avait jamais vraiment exploré tous les déserts. Et grâce au satellite, on s'est aperçu que dans les déserts, il y avait effectivement de la végétation. La végétation.
Merci. Désert caché, tendresse oubliée, caresse pour rien, consommateur qui se plaint. Tout le monde est en train de se faire entendre ce matin. À tout de suite. Il est 7h20, beaucoup d'entre vous se réveillent. Eh bien, j'ai décidé que pour le petit déjeuner, vous méritiez le meilleur. L'auditeur de Nova mérite le meilleur. Le meilleur du petit déjeuner, le meilleur de l'excellence à la française. Le pain du président de la République et les cocktails ravigorants de l'hôtel Ritz. Nous sommes avec Samy Boitour de la boulangerie Brun dans le 13e arrondissement qui a obtenu le prix de la meilleure baguette de Paris et qui, à ce titre, fournit dorénavant l'Élysée. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Monsieur Boitour, qu'est-ce qu'une bonne baguette? Comment est-ce qu'on réussit la meilleure baguette de France?
Eh bien, écoutez, une bonne baguette de France, c'est surtout un bon temps de repos, de ne pas se précipiter et ne pas griller les étapes, c'est-à-dire de bien laisser fermenter la pâte, de bien laisser travailler le levain, parce que nous travaillons avec du levain liquide. Et toute la fermentation, tout le repos, disons, pour une bonne baguette est indispensable.
Parce que sinon, beaucoup de boulangers vont trop vite.
Ben, beaucoup, effectivement, grillent les étapes. Donc, c'est un petit peu le problème de la boulangerie. Ils ne prennent pas les bonnes températures. Il suffit qu'on grille quelques étapes et ça peut effectivement jouer sur la finalité de la baguette.
Alors, nous, on a l'image du boulanger qui est là vers 4-5 heures du matin et qui ensuite, son pain est prêt pour 9 heures quand la boutique ouvre. Vous, c'est plus long que ça?
Alors, le temps de repos, c'est l'anticipation. Dans ce domaine, dans notre profession, il faut vraiment anticiper toutes les étapes. Comme moi, je vous dis, par exemple, à 7 heures, quand j'ouvre, le pain est frais et croustillant. C'est une pâte qui a été faite la veille, dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc, ça veut dire qu'elle a entre 12 et 15 heures de fermentation, déjà.
Alors vous avez dit, c'est tout à votre honneur, cette modestie, que votre pain tout à coup a été choisi le meilleur, parce que ce jour-là, le jour du concours, l'air était humide et les autres pains se sont effondrés, se sont affaissés, et sont devenus tout mous et le vôtre a tenu.
Ouais, alors il y a plusieurs petites... effectivement, quand le temps est humide, il faut vraiment assécher son pain. Il y en a beaucoup pour le jour J du concours, va cuire vraiment le plus tard possible pour les présenter tièdes ou au concours. Mais le problème, c'est quand il fait humide, s'ils mettent leur pain tiède dans un sac ou dans un bac ou quelque chose comme ça, c'est clair que tout de suite, l'humidité va se dégager et le croustillant va s'en aller.
Et tout va s'affaisser.
Donc c'est pour ça que quand la baguette sort du four, il faut vraiment laisser au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça s'appelle ressuer le pain. Ça veut dire qu'il faut que l'humidité refasse son travail.
Il faut que ça ressue.
Mais effectivement, je pense que le concours a joué surtout sur le croustillant de la baguette. Hein.
Samy Boitour, si ça n'est pas un secret d'État, combien de baguettes livrez-vous chaque jour à l'Élysée ?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas trop d'infos. On a juste quelques références avec mes anciens collègues qui ont gagné aussi le premier prix. On doit en principe se recontacter cette semaine ou la semaine prochaine pour l'Élysée. D'après ce que j'ai entendu, c'est entre 10 et 15 comme en tradition par jour. Alors, c'est pas la livraison sur l'Élysée, c'est vrai que c'est pas la quantité ou le chiffre d'affaires que ça va nous rapporter, c'est surtout le prestige.
Bien sûr.
Savoir que mes clients et surtout tous mes clients fidèles qui viennent tous les jours me disent « Oh là là, vous vous rendez compte, ce soir, je vais manger le pain que notre président va manger également. » Donc ça, c'est vraiment prestigieux pour notre clientèle. Donc c'est vrai que c'est un prestige et un honneur de livrer l'Élysée, mais c'est surtout pour ma clientèle un honneur de dire « Ah ben, ils vont manger. » On est au même niveau. C'est-à-dire que le pain, en fin de compte, dans la société française, est au même niveau pour tout le monde. Tout le monde mange le même pain, la même qualité de pain. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de produire, la même qualité de pain pour tout le monde à tout niveau social.
Mais c'est vrai que comme proverbe français, c'est mieux de se dire « je vais manger le pain du président » qu'on mange le pain des Français. Quoi. C'est mieux, c'est plus, on se sent plus tiré vers le haut. Dites-moi, est-ce qu'à votre avis, votre pain peut avoir une influence politique ? Est-ce que vous imaginez ce qui peut se jouer autour d'une tranche de pain ou d'une baguette de la boulangerie Brun ?
Alors, je ne sais pas si ça va effectivement peser sur des dossiers, mais je ne pense pas non plus. Mais
si la baguette adoucit les mœurs, peut-être. Non, peut-être. Ah, je suis énervé, tiens, mort là-dedans, non ?
Écoutez, si ça peut faire du bien pour le pays, il n'y a aucun souci.
Vous recommandez. Vous voulez qu'on la beurre, votre baguette, qu'on la confiture, qu'on la trempouille dans le thé ou dans le café, qu'on la prenne comme elle est, on peut y rajouter du sel. Qu'est-ce que vous conseillez au président et aux habitants de l'Élysée ?
Qu'il la mange dans tous les sens, il n'y a aucun souci. Hein.
Et cette fameuse baguette qui arrive à la maison et à laquelle il manque les deux coins, ça tient à quoi quand elle arrive à la maison ? Souvent, il manque un coin.
Généralement, c'est que. On ne peut pas s'empêcher effectivement de la laisser entière quand on part de la boulangerie.
Je sens aussi.
C'est un truc de qualité de manger la quigne.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Merci beaucoup, Samy Boitour.
Merci à vous.
Et bravo
aux auditeurs et à très bientôt.
Au nom de la République française. Maintenant que vous avez, chers auditeurs, la baguette du président de la République, je vous propose de l'accompagner parce que vous méritez le meilleur des meilleurs cocktails du matin de France et du monde avec Colline, le chef barman du Ritz. Bonjour, Colline.
Bonjour Edouard Baird.
Colline, on est très heureux de vous parler. Vous êtes le plus grand faiseur de cocktails du monde. Hein. Vous officiez au Ritz à Paris. Aujourd'hui, je voudrais que pour accompagner le pain du président de la République, vous nous conseillez un cocktail du matin, quelque chose qui puisse nous lancer la journée telle que vous la sentez aujourd'hui. Donc à Paris, elle est plutôt un peu chaude, moite, excitante. Et dans beaucoup d'autres régions, aujourd'hui en France, il fait très beau aussi.
100 foie gras, parce que j'ai pas...
Voilà, oui, un cocktail 100 foie gras, oui.
Mais j'en ai même deux, parce que le premier... qui s'appelle Marina, je dirais pourquoi, est un cocktail sans alcool parce qu'il faut rester politiquement correct, n'est-ce pas ? Et donc, je vais travailler autour de kiwi. Je prendrai deux kiwis, oui. 150 grammes de concombre dans une centrifugeuse, oui. 3 centilitres de citron vert. Je mélange le tout dans un tumbler et je le sers. C'est vert, c'est un petit peu comme la mer lorsqu'on va faire un plongée sous-marine. À Saint-Nary-sur-Mer, 25 mètres en dessous de l'eau. Tout est vert, mais en réalité, c'est plein de couleurs.
Donc, on est sur deux kiwis, 150 grammes de concombre et 3 centilitres de citron. Et là, tout ça...
Dans la centrifugeuse, C'est absolument superbe. Et parce que c'est ouvert, ça s'appelle le Marina.
Et on se jette dans le cocktail, on le boit, tout est possible ?
On peut tout faire avec de l'imagination.
Bien entendu.
On peut tout faire avec de l'imagination. Le deuxième, Edouard Baird, c'est le cocktail Marina C, comme Marina C, toujours sur le thème de la mer. Encore une fois, toujours mes deux kiwis, deux jus, avec les centrifugeuses. Et ensuite, je le mets dans un verre à vin blanc et j'emplis de champagne. Et ça, c'est absolument sublime.
Mais là, ça fait, oui, là, tout à coup, la vie part sur un peu différemment, quoi. Et dites-moi, d'où viennent ce nom, Marina et Marina C?
Alors, Marina, c'est surtout je voulais évoquer la mer, en dessous de la mer, les profondeurs, tout ça, c'est tous les endroits où on a été juste avant qu'on se réveille pour boire ce cocktail, pour accueillir la nouvelle journée.
Est-ce que si quelqu'un qui serait moins en forme que les autres ce matin, qui aurait un petit coup de mou, qui sans forcer bien sûr...
Il faut commencer absolument, Edouard Baird, avec le cocktail sans alcool, avec le kiwi, parce qu'il y a le vitamine C, le réveil, l'acidité. Le concombre, ça va donner l'hydratation de l'intérieur et l'extérieur. Et citron vert, encore une fois, ça réveille avec son acidité. Est-ce que je peux en parler d'une troisième ?
Je vous en prie, bien sûr.
Alors, le troisième, par contre, c'est un peu mon préféré, j'avoue. Ça s'appelle Silent Green. C'est un jeu avec Silent Green, partie d'un film avec Charlton Heston il y a très, très longtemps. Et celui-ci, c'est un peu dans le style d'un Bloody Mary. Bien sûr, on l'attendait. Mais cette fois-ci, c'est 4 centilitres de vodka dans un grand, grand, grand verre.
C'est intéressant.
Citron vert, 3 centilitres. Et le jus de concombre versé au-dessus. Et ça, c'est la chose la plus incroyable que je peux imaginer.
Je crois qu'on va plus partir là-dessus avec Atman Kelly.
Oui, tout à fait. Juste, bonjour. Atman Kelly des Alcooliques Anonymes. Il y a un grand retour du spritz, là, en ce moment. Il faut le faire avec quoi ? De l'apérol ou du Campari ? Parce que moi, je ne suis plus Campari.
Alors, peut-être y a-t-il deux écoles, mais le premier, l'école vénitienne, c'est bien entendu avec l'apérol et du Prosecco. Moi, j'avoue, personnellement, je cherche plus de corps et je vais utiliser, à moins qu'on me dirige autrement, mais je vais utiliser plutôt le Campari personnellement.
Pareil, pareil.
Merci infiniment, Colline, chef barman du Ritz. Que pensez-vous, pour finir, de cette phrase des Charlots, c'est l'apérobique, à elle la gym, à moi le tonique.
Ah ben oui, absolument, absolument, Edouard Baird, entièrement d'accord.
Merci, cher maître, bravo. Et si on ne peut pas payer vos cocktails au Ritz, on n'a qu'à les voler, c'est bien aussi. Merci, merci maestro, salut. Vous le méritez.
7h-9h, Edouard Baird.
Alors Thierry,
plus près de toi.
Pour votre journal, faites un petit truc, par exemple, vous savez qu'il y a un nouveau président, tout ça, un nouveau premier ministre, donc ça intéresse quand même les gens. Oui. Ils veulent quand même savoir pour ne pas passer sur une autre radio, sur France TLTin, Europe Culture. Donc vous leur donnez un peu la base. Oui, un nouveau machin. Puis l'autre a dit ça, l'autre n'est pas content. Il a dit non, pourquoi tu fais ça Et puis à droite, il a dit non, alors merci, parce que moi. Et alors qu'il se présente là, oh bah dis non, alors c'est pas bien de faire ça, vous êtes des salauds. Non, c'est vous, ça vous fait un petit truc autour de ça. Hein.
Et puis.
Ensuite, un peu. Élargissez. Donc, sur l'international, il y a sûrement quelques morts quelque part, des drames, des gens pris, quelques horreurs. Vous saupoudrez deux, trois horreurs. Comme ça, on se dit, ah, c'est quand même pas si mal ici. Et ensuite, peut-être un petit peu, vous finissez par un petit truc, un 3-0 dans le sport que vous voulez, ou un égalité.
Ouais, ça me paraît bien équilibré, ça.
Allez, merde, mon titi paraît.
La composition du gouvernement, tout d'abord. Elle sera dévoilée donc à 15h cet après-midi. L'annonce, elle devait être faite hier soir, mais elle a été finalement retardée. Le temps de procéder aux vérifications fiscales et déontologiques des futurs ministres. Alors, il s'agit notamment pour Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe d'éviter tout conflit d'intérêts. On notera que l'entourage de Nicolas Hulot faisait état hier soir de discussions avec Emmanuel Macron pour que l'écologiste entre au gouvernement, même si, pour l'heure, rien n'est encore acté. Le ton monte au sein de la droite entre ceux qui acceptent la main tendue par le chef de l'État et ceux qui la refusent. Tous les candidats LR, UDI aux législatives sont invités à signer un appel contre le projet de la République en marche. Difficile de prédire qui composera évidemment la prochaine Assemblée nationale, mais une chose est certaine, il y aura nombre de nouvelles têtes lors de la rentrée parlementaire, puisque plus d'un député sur trois ne sera pas candidat lors des élections législatives des 11 et 18 juin. Chaque jour, de nouvelles révélations viennent ternir un peu plus la crédibilité de Donald Trump. Après les révélations du Washington Post sur la divulgation d'informations classifiées à un dirigeant russe, le New York Times affirme que le président américain a demandé en février février à James Comey, qui était encore directeur du FBI, de laisser tomber une enquête sur l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Tout est parti d'une demande d'une série de pays, Niger, Brésil, Tunisie, Turquie, envers la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Ces pays ont constaté que certaines zones couvertes par des arbres n'étaient pas correctement répertoriées. Une équipe de chercheurs d'une dizaine d'universités belges notamment s'est donc penchée très sérieusement sur la question. Et là, aussi incroyable que ça puisse paraître, cette équipe de chercheurs a découvert que toutes les cartes actuelles sous-estimaient grandement la superficie totale des forêts. La sous-estimation correspondrait plus ou moins, j'espère que vous êtes tous assis, c'est le cas, à la superficie de la forêt amazonienne, c'est-à-dire de 400 à 500 millions d'hectares de forêt qui n'étaient pas recensés. Oui, c'est génial. La surface forestière mondiale serait donc finalement de 9% plus importante que ce que l'on pensait. Voilà, donc on va plus regarder le changement climatique de tout à fait de la même manière. Donc
la Terre a deux poumons.
On va pouvoir construire des nouvelles usines.
On va pouvoir couper du bois.
Couper du bois mort.
Donner de l'eau.
Et faire des tracts, énormément de tracts pour avoir énormément de papier. Ouais. Ça, c'est chouette. Ça va relancer peut-être la consommation française.
Le coup d'envoi aujourd'hui du 70e Festival de Cannes, présidé par Pedro Almodovar. Alors l'événement va s'ouvrir avec le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël. C'est hors compétition. Hein. C'est un film qui est sur les écrans à partir d'aujourd'hui. Monaco reçoit Saint-Etienne ce soir. C'est un match en retard de Ligue 1 qui pourrait permettre à Monaco d'être sacré champion de France. Il suffira d'un match nul au Monégasque.
L'invité de 7h35. Bernard Bucaille, bonjour. Bernard, vous êtes, votre nom circule énormément pour un Marocain dans le ministère Édouard Philippe. On parle énormément de vous pour un poste peut-être même régalien, un ministère enfin de premier ordre aujourd'hui dans le gouvernement d'Édouard Philippe, mais vous ne pouvez...
Je peux encore rien dire parce que, bon, effectivement, on m'a
rien
appelé...
Rien n'est acté, rien du
tout, ce qui fait que, bon, je suis quand même venu me faire interviewer.
Mais vous ne pouvez...
Mais je ne peux rien dire.
Parce que je rappelle Bernard Bucaille, on ne peut même pas dire à quel parti vous appartenez aujourd'hui. Bernard Bucaille, pardon. On ne peut même pas dire à quelle formation politique vous appartenez, vous m'avez dit de ne pas la nommer.
Non. Puisque j'ai décidé de tourner la page, voilà, tout à fait.
Je me fous du passé. Hein,
je me fous du passé, c'est une chanson que j'ai chantée.
Vous me disiez aussi, je ne mentionnais pas la région d'où je suis issu, parce que ce n'est pas la question.
Bah, je préfère pas.
En revanche, on parle énormément de vous pour un ministère vraiment de tout premier ordre. Lequel ?
Eh bien justement, je préfère ne pas encore divulguer de quoi je vais m'occuper. En tout cas, ça concerne tous les travaux.
Tout ce qui est important.
Tout ce qui est important.
De premier ordre.
De premier ordre. Je donne peut-être un indice.
Alors ne le regrettez pas après. Moi, je ne suis pas à la recherche de la petite phrase pour alimenter la twittosphère.
C'est juste un indice qui peut vous faire trouver le.
C'est un poste où vous devrez être en costume H24.
Je serai en costume.
Cravate, veste, peut-être même vous aurez
une voiture de fonction.
Un logement de fonction.
J'aurai des moufles. Ça, c'est un indice.
Peut-être des moufles l'hiver, mais l'été, je vous le déconseille.
C'est à la cuisine, non ?
Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de mystère des cuisinettes, mais vous n'êtes pas bien documenté. Ça, ce n'est pas la première fois que je m'en aperçois. Et dis donc, on est sur un ministère de tout premier plan.
Alors, il y a plusieurs plans au niveau des ministères. Et effectivement, je serai dans les 5, 6, 7, voire 7, 8,
7, 8, 8 premiers. C'est énorme de vous avoir ce matin. Pour nous, évidemment, petite radio de proximité, de briques et de brocs, avec trois morceaux de ficelle, on fait
J'avais envie de vous donner à vous l'exclusivité.
La primeur. De cette information. Donc Bernard Bucaille...
Pour le moment, on n'a rien. Hein.
On n'a rien.
Pour le moment, non.
On
m'a appelé.
Mais il ne dit pas grand-chose.
Eh bien, tu crois que c'était facile de l'avoir ? Les radios, les télés se l'arrachent.
Ah bon ?
Alors vous avez choisi Nova, merci déjà.
Merci à vous de m'avoir invité.
Non, à vous.
Non, à vous. À vous. Je vous le dis droit dans les yeux, monsieur Bayer.
Et je ne cherche pas à avoir des avantages une fois que vous serez au pouvoir.
Une fois que je serai au pouvoir, monsieur Bayer, vous aurez l'exclusivité de toutes les informations extirper de ce gouvernement.
Il y a une grosse demande pour que ça dure plus longtemps, cette interview au Grosse Dernande, mais elle ne vient pas des auditeurs. C'est une demande qui vient des radios concurrentes qui sont en train de gagner des auditeurs qui fuient Nova en masse.
A été écrit par Jean Amadou.
C'est Jean. Allez, on est dans la rue, il est mort, mon vieux, merci. Alors, on est avec.
Je vous attendais.
Merde.
J'étais avec Rafik, il était parti chercher les cigarettes, il m'a laissé le comptoir. Vous m'aviez laissé le comptoir tout seul, là, Rafik.
Attends, il n'y a pas d'argent, donc c'est pas un problème, ça.
Attends, quoi ?
Il n'y a pas d'argent dans les caisses encore, donc je peux te laisser ici, il n'y a pas de problème.
Bonjour, Rafik. Vous confiez facilement votre commerce à des inconnus ?
C'est pas un inconnu, c'est devenu un ami, maintenant, ça y est.
En 10 minutes ?
En 3 minutes. Ah oui, bah, vous savez, ici, tout se passe vite. Hein.
Et est-ce que vous vous brouillez aussi vite que vous faites des amis?
Non, jamais de la vie. Je suis quelqu'un de calme.
Vous êtes le prince, le pays du matin calme.
Et en même temps, il a une tête sympathique, votre...
Oui, c'est vrai.
Ma tête, hein, vous avez remarqué, il a vraiment une tête sympathique.
C'est vrai qu'il, ce qui facilite beaucoup les rencontres.
Évidemment. Et alors, il y a Anaïs qui est au comptoir qui prend son petit café. Bonjour Anaïs. Il y a Didier qui était le mécano d'hier.
Ah bon? Didier qui était avec Anthony et Michel.
Bonjour, bah bon toi, je... voilà.
Didier, ça va? Anthony va bien? Michel va bien?
Il n'a pas le casque, c'est Rafik qui a le casque.
Ah bah mon vieux, oui, si à un moment les gens n'ont pas de casque, les travaux risquent de nous péter sur la gueule.
Il y a un autre monsieur, je ne sais pas qui c'est, bonjour monsieur. Non, il a dit non avec la main. Il a dit non avec la main.
Il a dit oui avec le cœur.
Là, Rafik, il fait. Voilà, je suis derrière le comptoir, Rafik, qui fait les cafés.
Edouard, tu veux un café?
Non, mais est-ce que ça existe encore, Rafik, cette idée que si on passe de l'autre côté du comptoir, on offre une tournée générale?
C'est pas vrai, c'est tous des crevards.
Comment ça s'appelle comment ce bar?
Le Celtic.
Ah mais il y en a plusieurs des Celtics. Est-ce que...
Effectivement, c'est historique, effectivement. Pourquoi il y a 15 000 en France, il disait.
Oh là là, c'est comme des... Est-ce que c'est l'équivalent de Kevin comme prénom, le Celtic en bas?
Ouais, mais Kevin dans le nord de la France alors, monsieur.
Et pourquoi les Celtics, c'était une marque de cigarettes avant, non?
Quelque chose comme ça, ouais. C'est comme le Balto et ce genre de choses.
Oui, oui. Ou le Gaulois. Et c'est où ton Celtic à toi, Rafik?
C'est pas loin de Nation.
C'est quoi les conversations au comptoir? Ça cause beaucoup ou c'est calme?
C'est la drogue, politique.
Ouais. Ouais.
Et voilà, principalement, c'est la drogue et la politique.
Et les gens lient les deux dans la même conversation ou c'est très séparé comme conversation?
Mais ça va toujours ensemble. C'est ça le problème, ça va toujours ensemble.
S'il y a des infos, n'hésitez pas à nous rappeler. Donc là, on est plutôt sur du café, là, ce matin.
Exactement.
À quelle heure ça... Est-ce qu'il y a, tu as l'habitué qui vient, qui attend l'ouverture vers 7h pour prendre son petit coup de blanc?
C'est la base, ça.
Oui, c'est la base.
Il est où? Il n'est pas là, là. Il n'y a personne. Tout le monde est au café. C'est vrai, en plus, tout le monde est au café.
Et est-ce qu'il y a l'habitué qui est là à 7h et on s'aperçoit à 19h qu'il est encore là, mais il est tellement discret qu'il est resté 12h dans la différence générale?
Ouais, mais non, mais on ne lui parle pas, lui.
C'est le radiateur.
C'est le radiateur. Donc, ce qu'on appelle le pilier de bar, c'est ça. C'est le mec, on a l'impression que s'il part, le bar va s'effondrer, quoi.
Il y en a toujours.
Rafik, est-ce que beaucoup, il y a une théorie de conspiration qui dit que les Chinois rachètent tous les bars à Paris. Es-tu chinois?
Non, malheureusement, je ne suis pas chinois. Je suis français, monsieur.
Mais il y a beaucoup de Chinois qui sont français aujourd'hui.
Pourquoi tu n'as pas dit français d'origine chinoise? Tu vois? Encore une fois, tu cherchais problème, Edouard.
Oui, oui. Et je suis en train de les trouver. Merci beaucoup.
Non, mais c'est des travailleurs, principalement.
Parce que c'est des métiers très durs?
C'est comme n'importe quel métier, vous savez. À partir du moment où on est en contact avec des gens...
Donc le chinois est travailleur, bon bah le noir a le sens du rythme, le juif aime le pognon, et puis quoi, il y a quoi d'autre? Alors, comme un oréo.
T'as pas parlé du rebeu, là?
Le rebeu, bah il vole, le rebeu.
Exactement.
Sauf les poules, ça c'est le gitan qui vole les poules.
C'est vrai. Bon,
salut Rafik, une très belle journée. Avec on a mieux appris à se connaître les uns les autres sur quelques éléments ratios, vraiment. Oui, Marion Maréchal Le Pen, il faut que je l'appelle dans les plus brefs délais.
7h-9h, plus près de toi.
On va plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Juliette Pagès, vous êtes apparue ici un matin d'hiver pour assister à l'un des lives du lundi et du jeudi, puis vous êtes devenue une fidèle avec quelques amis à vous. On était intrigués parce que vous changez souvent de couleur de cheveux, c'est passé du blond le plus pâle jusqu'au rose le plus affirmé. Et on a un peu parlé, vous nous avez dit que vous étiez étudiante à Subdeco, donc là on était très admiratifs. Atmen s'est mis à mettre une veste le matin, où il savait que vous serez là. Et puis là vous nous avez dit, j'ai fini mes études et tout à coup le monde change. Vous étiez dans le monde des promesses, et maintenant il va falloir les tenir, ces promesses.
Oui, c'est exactement ça, merci. C'est un peu l'aboutissement de pas mal d'années d'études. Enfin, si on cumule tout, ça fait presque 20 ans de ma vie. Donc sur 23, ça fait beaucoup. Et ouais, donc là, j'en suis au point où j'ai rendu mon mémoire. Je suis hyper contente. Je dirais à tout le monde, ça y est, j'ai fini. C'est vraiment l'euphorie. Et puis là, souvent, en fait, les gens me disent, bon, mais du coup, tu fais quoi après? Et cette question, elle est assez terrible parce qu'on n'a pas trop envie d'y répondre. Donc je fais un peu genre, j'ai pas compris. Je dis, bah, après, je vais aller boire des coups dans un bar. Demain, je vais faire une bonne grasse mat.
C'est 48 heures, quoi. Il faut voir au-delà de 48 heures, c'est ça.
C'est ça. Mais cette question, elle est un peu délicate. Moi, je sais pas trop quoi répondre. Donc je commence un peu à angoisser, à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai déjà du mal à savoir ce que j'ai envie d'aller voir au ciné. Donc comment je peux faire pour savoir ce que j'ai envie de faire toute ma vie? C'est très compliqué.
Alors, on croit toujours que quand on est étudiant, déjà, on commence dès le secondaire, on demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Déjà, aux enfants de 6 ans, on dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier. Alors, pour faire plaisir aux parents, on dit je veux être pompier, policier, ou disent des choses auxquelles ils croient pas du tout, mais pour qu'on leur foute la paix. Donc on imagine qu'à Subdeco, dans des études très brillantes, vous savez ce que vous voulez faire dans la vie.
Ben justement, on est censé savoir, et puis moi, je sais pas. Donc, je culpabilise un peu parce que justement, j'ai quand même eu le temps d'y penser. J'ai mes copains, Thomas et Clément, pour pas les citer, qui ont déjà fini leur. Enfin, qui ont déjà trouvé leur CDI.
Ils sont déjà à la retraite, même.
Et ils sont déjà à la retraite.
Je vais pas les citer, mais c'est fait. Oui. Mais alors là, déjà, est-ce qu'on peut prendre une année sabbatique? De quoi vous vivez? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus?
Ben là, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai déjà pris mon année plus ou moins sabbatique. C'est pas vraiment sabbatique, on appelle ça une année de césure. Donc pendant un an, j'ai fait deux stages de 6 mois, un à Berlin et l'autre à Barcelone.
Payé ?
Oui, payé comme un stagiaire, mais payé. Et c'était super sympa. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai ma petite expérience, je vais finir mes études. Et après, je pourrais trouver du boulot directement. Et bien, que nenni. Parce qu'en fait, à la sortie d'école, souvent, on redemande de faire un stage. Sauf que moi, j'ai fait toutes mes semaines de stage avec l'école. Et que là, bah, je suis un peu embêtée. Parce que pour refaire un stage, il faudrait que je repaye mon école. C'est un peu embêtant. Du coup, je suis perdue.
Même l'élite de la nation, l'élite des études, vous avez les foies, quoi. Vous n'êtes pas dans l'enthousiasme de l'avenir et dans l'excitation de trouver un métier.
Moi, je pense que, je pense que cette angoisse, il va falloir tenter de la piétiner pour justement profiter de ce vide, pour justement se jeter dans ce vide. Et à ce moment-là, évidemment, vous allez trouver quelque chose parce que vous avez le matériel intellectuel, le bagage pour vous en sortir. Ouais. Moi, je pense que le truc,
professeur. Là, oui. Mais vous êtes partisan de la théorie, attends d'avoir touché le fond, et là, tu donnes un coup de pied, tu remontes. Attention.
Là, on est dans 20 ans d'une falaise qu'on a grimpé. On a grimpé très haut, et là, on a un vide. Mais profitons de ce vide. Profitons de ce vide pour voler. Et ne rien faire.
Vous conseillez donc à un jeune d'ouvrir la fenêtre et de se lancer, il va voler. Faites très attention, professeur. Peu ont survécu de vos étudiants. Non, mais Juliette Pagès, sérieusement, là, donc, c'est une angoisse habituelle chez des étudiants qui ont fait de très très longues études?
Ça, je sais pas, je peux pas trop parler à la place de mes copains, mais moi, pour moi, en tout cas, c'est un peu une question. Mais bon, après, effectivement, il y a le côté un petit peu excitant aussi de se dire, bon, là, tout est possible, je peux tenter des trucs, puis au pire, c'est pas très grave, même si j'ai pas non plus prévu de me jeter de la fenêtre, mais bon. Voilà,
c'est quoi les métiers habituels que font les gens qui ont fait de si brillantes études?
Il y en a beaucoup qui font du conseil, de l'audit, de la finance, du marketing ou des ressources humaines. Ou là, de plus en plus, une grosse tendance sur les start-up et l'entrepreneuriat.
Il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent aujourd'hui dans le monde. Et il y a un métier maintenant qui est assez intéressant, c'est de remplacer les kangourous en Australie, remplacer les girafes.
Non, alors, non.
C'est un gag, ça?
Non, pas du tout, mais je veux dire, à la limite, peut-être que t'es pas utile de faire toutes ces études. Il fallait peut-être y aller plus tôt.
Mais non, c'est intéressant d'être un kangourou et avoir un bagage.
Non, c'est intéressant pour personne d'aller sautiller dans un désert australien en disant ouh ouh et en donnant de temps en temps 2-3 coups de poing parce que le kangourou est boxeur avec une poche sur le ventre. Ne dites pas de conneries, pardon.
Dans cette poche, on peut mettre énormément de choses.
Juliette Pagès, est-ce que vous trouvez que tous ces métiers que vous avez cités, ça craint un peu? Vous n'avez pas envie de les faire?
Moi, ça m'intéresse pas forcément. Vraiment beaucoup.
Mais pourquoi vous avez... Bon, je comprends pas, à chaque fois j'entends ça. Vous avez suivi ces études alors?
Mais pour pas faire de choix justement, en fait, parce que je savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, je vais aller en prépa, c'est généraliste, c'est très bien.
J'encourage les gens à vivre et pas à travailler forcément,
mais
et
mais
c'est non, bien.
Mais vous conseillez des métiers qui sont un petit peu quand même, qui sont un peu aberrants. Vous leur proposez d'être kangourou en Australie. Comprenez que je ne puisse pas prendre au sérieux ces propositions pour résoudre le problème de l'emploi en France.
Mais pourquoi? Parce que des gens qui vivent dans la nature, avant la civilisation, on s'est bien débrouillé, les gens étaient heureux.
Laissez le kangourou faire le kangourou et l'être humain vivre sa vie d'homme.
Elle vient de finir ses études, elle ne va pas stresser.
On va la déstresser, ans. Juliette Pagès, comprenez bien. Mon projet n'est pas de l'angoisser, de la remettre dans les rails d'une vie, entre guillemets, normale, avec un emploi salarié, avec fort potentiel d'évolution qui l'amènerait vers un statut affilié cadre. Il ne s'agit pas de ça.
D'accord,
je voudrais qu'elle aille dans la logique de ce qu'elle est elle et qu'elle ne prenne pas vos décisions libertaires qui ont transformé beaucoup d'êtres humains en animaux, puisque je rappelle que dans plusieurs forêts équatoriales, il y a d'anciens étudiants à vous qui jouent tant l'ours, tant la panthère, tant élémentaire, mon cher Balou, on est sur Terre pour faire les fous, puisque je rappelle que c'est un ancien élève à vous qui est dans le livre de la jungle. C'est, le retour à la nature est possible, mais d'abord, il faut aller au bout de sa décision d'étudiante, non?
Oui. J'ai du mal à répondre à ça.
Les gens sont mal aiguillés. Peut-être qu'elle a fait tout ça et qu'il voulait faire autre chose. Non, Teddy Riner, il voulait être fleuriste, j'ai appris.
Eh bien, il n'est pas fleuriste.
Non, il est karaté.
Ah, ben, il fait mal aux fleurs, Teddy Riner. Bon, il fait mal aux fleurs.
Mais pas du tout. Souvent, les grands les karatékas ou les judo sont très doux avec les plantes. Non, c'est très connu.
Il est fleuriste, Teddy Riner.
Et les gens très gros, souvent, dansent très bien.
J'ai des fleurs, j'ai entendu des fleurs qui m'ont appelé et qui m'ont dit que Teddy Riner avait
tendu les fleurs. On a écouté votre angoisse. Voilà, si vous aussi vous avez des angoisses à formuler, venez nous voir. Juliette, on n'a pas résolu vos problèmes. Vous pensez faire quoi cet été?
Qu'est-ce que je pense faire cet été? Bah, y réfléchir et puis m'amuser.
Voilà.
Non, non. Bon, non, mais tout ça pour dire que du coup,
au
final, je me suis teint les cheveux en rose, comme ça les gens me parlent de mes cheveux et ne me parlent pas de mon avenir, et c'est une bonne astuce.
Merci. Voilà, les cheveux, c'est l'avenir, madame.
C'est très bien. Et c'est pour ceux qui en ont. Et, quand, et ceux qui n'en ont pas, passez me voir, Jean-Louis.
Oui.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird.
Chanty, t'aimes bien la pub, toi?
Oui.
Tu les as entendues, celles-là, elles étaient bien? Il y avait une pub, c'était Carrefour, je crois, où on pouvait acheter des couches et des trucs comme ça. C'est un peu n'importe quoi. Quelle pub t'aimes bien, toi? Plutôt la télé?
Oui.
Les pubs pour quoi, par exemple?
Pour le camembert ou des...
Il y en a qui te reviennent en tête ou pas?
Non.
C'est pas gentil parce que tu y a beaucoup de gens qui se donnent du mal... Des rédacteurs concepteurs, des agences, ils tournent des spots, ça coûte beaucoup d'argent pour qu'on se rappelle le nom de la marque. Il y en a qui sont pour les enfants, c'est pas très gentil de pas se rappeler. Parce qu'après, l'idée, c'est que tu ailles faire des courses et consommer un petit peu. Alors, Chanty, toi, tu aimes quoi plutôt? Le sport?
Oui, le sport.
Quel sport, par exemple?
Les arts martiaux.
Oui.
Tu fais quoi comme arts martial?
Avant, je faisais du karaté.
Ouais, je me souviens. Ouais.
Après, j'ai arrêté, j'ai fait du kung-fu.
Du kung-fu?
Oui, c'est un, on ronfle et on fait du et on fait le fou. Du kung-fu.
Kung-fu.
Du kung-fu.
Oui.
Kung-fu.
Et après, j'ai arrêté il y a une semaine.
Bah pourquoi?
Parce que j'en avais marre.
Oh bah, mon vieux, accroche-toi un peu, quoi. Écoute, regarde Teddy Riner, il en avait marre aussi. Il a continué. Il y en a que t'aimes bien? Il y a des grands sportifs que t'admires?
Oui.
Qui ça, par exemple? Jean-Noël.
Mais où?
Ben, en général, dans n'importe quel sport, dans n'importe quel pays.
T'aimes bien, par exemple, des gens qui font du karaté ou qui se battent contre des dragons ou des... Ou des chiens.
En tout cas, vous avez très bien dit tout à l'heure, on parle des arts martiaux, vous avez bien rebondi, Jean-Noël Mistral, vous allez dire au singulier art martial.
Art martial, oui.
Ouais, parce que c'est pas pareil au pluriel et au singulier.
Non.
Alors qu'un chien, des chiens, c'est pareil, c'est juste le S qui, en plus.
C'est pas les chiennots, par exemple.
Non. On dit pas, par exemple, un chial des chiots.
Non, non. Pas ça.
Enfin bon, on va pas t'embêter avec la langue, avec les accords, Chanty. Chanty, t'es venu pour dire un poème?
Oui.
C'est sympa de ta part d'être venu. Tu passais dans le quartier, tu t'es dit ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée?
Maman.
C'est souvent des idées de main. Et t'étais pas contre l'idée. Tu as dit, allez, banco, on y va? Comment ça s'est passé?
C'est qui, banco?
Non, je veux dire, ça veut dire go, tu sais. Ça veut dire go, on y va, yes. Ça veut dire, tu vois, c'est quand on dit, ouais, on y va, quoi.
C'est toi qui décides en général ou c'est ta maman qui décide?
C'est ma maman qui me l'a dit hier.
Ouais. Et toi, t'étais d'accord tout de suite ou au début
Au début, j'hésite un petit peu parce que je savais pas la poésie.
Ouais.
Et après, j'ai dit oui.
De toute façon, c'est pas comme à l'école. Hein. On peut se tromper. Ça fait même partie de la poésie de se tromper. C'est parfois plus joli quand on se trompe. Hein.
C'est la fragilité.
Donc, c'est très joli ce que vous dites, Jean-Noël.
Ben oui, c'est beau la fragilité, bien c'est sûr. Beau le fait de le dire, c'est beau même le mot. Et même
vous êtes un admirateur aussi de la force, pendant la guerre surtout, vous disiez ça.
Je ne le dis pas comme ça, je dis la force.
Alors, Paris est tout petit, c'est un poème de Jacques Prévert. On t'écoute, mon cher Chanty.
Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Tout le monde s'y rend compte.
Les montagnes aussi.
Même un beau jour, l'une d'elles accoucha une souris. En son honneur, les jardiniers tracèrent le parc Montsouris. Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Jacques Prévert.
C'est super. Oh. Bravo, mon vieux. Un très joli poème de Jacques Prévert. T'as du plaisir à le dire?
Ça J'ai senti, moi, que tu étais parti lancé, tu n'étais plus avec nous. Tu étais parti dans un monde incroyable. Je voyais comme un oiseau qui volait des choses.
Oui. Qui volait un petit sac à main, par exemple. Comme un petit oiseau, on est là avec son sac à main, comme ça arrive souvent à Thierry Pareil, qui est souvent au parc début de chemin avec son sac à main, et hop, la pie voleuse arrive et repart avec.
Oui, tout à fait.
Avec tout son nécessaire à maquillage.
Qui volait des choses, mais qui volait des sacs à main, mais des sacs à main de fustigeance ou de volupeté. Des sacs à main de.
Dans volupeté, vous mettez un E entre le P et le T alors.
E-U.
Ah oui, c'est un nouveau mot. Chantier à toi d'écouter le poème de Jean-Noël Mistral, qui est un poète qui chante principalement pour un public d'animaux de la forêt.
C'est ça.
On est un peu en retard pour le journal.
Oui, j'essaye de le dire vite. Qui peut le plus, peut le moins.
Non, prenez votre temps.
Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Celui qui pousse sous ma tête dans son manteau fripé des chardes et des corses. Celui qui passe sa tête au-dessus de la foule boisée, c'est mon ami, le grand chêne. Auguste, je l'appelle. Dans ses bras de racines noueux qui feraient frémir la jument qui boite. J'avais mis la jument frivole, mais j'ai préféré la boite. Sur un tapis de mousse moucheté de bégonia naine aux couleurs d'allaitement, je dors la nuit depuis des années recroquevillée dans le croque en jambes du sommeil. Je dors et plonge dans des rêves où les couleurs sont des tapirs et des daims, où les yeux des fées sont des perles vives, effarouchées et sauvages.
Mmh. Ah oui, tout ça.
Mais quelquefois, du tréfonds de la nappe phréatique de l'endormissement, c'est ta voix qui résonne, ô toi vieil arbre, ta voix de résine grave, comme le grave d'un piano si grand qu'il faudrait y aller à pied. C'est-à-dire que le piano est...
Ah oui, il faut y aller en bus, il est vraiment si grand, autant y aller en bus. Oui.
C'est toi que j'entends, vieillard aux cheveux verts, c'est toi qui me parles de ta langue râpeuse engluée de sciure et de copeaux. Alors je comprends, toi le plus vivant d'entre nous, comment tu brises dans le vent, plongeant tes doigts aveugles dans les tréfonds obscurs, chatouillant le ventre des taupes pour les faire rigoler. Et puis alors, quand je me réveille, tout humide de cette rosée glaciaire, lorsque mes yeux affleurent à la surface des eaux du monde, que mon cerveau allume un à un ses lampions, alors soudain, il me vient un proverbe. Par exemple, qui peut le plus, qui peut le moins. Et là, je comprends que c'est toi, vieil arbre, qui m'a chanté ces proverbes à l'intérieur de ma tête pendant que je dormais. Et je me dis que peut-être c'est vous, les arbres, qui avez appris les proverbes aux hommes. C'est vous qui avez composé les pages roses du dictionnaire. Ouais,
le dictionnaire des rencontres.
Alors je me dis...
Minitel, rose. Ouais.
On en apprend des choses quand même, dans un sommeil.
Eh ben, c'est fini. Vous nous régalez, vous nous avez régalé.
Il y avait le silence juste derrière et vous
non, parce que
l'avez éteint.
Mais tu m'as régalé là, j'en ai plein les oreilles là, j'ai régalé. Hein. Chantier, on lui met une note?
Oui.
Combien?
9 sur 10.
C'est non, gentil.
9 sur 100.
C'est gentil.
Merci beaucoup à Jean-Noël et à Chantier pour ce moment poétique, ils nous ont régalé. Le journal avec 5 minutes de retard, pardon à tous.
362, c'est le nombre de députés sortants, candidats à leur propre succession. 362 sur 577, autrement dit, plus d'un député sortant sur trois ne sera pas candidat aux législatives des 11 et 18 juin. Il y aura donc un nombre de nouvelles têtes lors de cette rentrée prochaine parlementaire. Le ton monte au sein de la droite entre ceux qui acceptent la main tendue par le chef de l'État et ceux qui la refusent. Tous les candidats LR, UDI aux législatives sont invités à signer un appel contre le projet du mouvement La République En Marche. Le fait politique de ces dernières 24 heures, c'est notamment Manuel Valls, hein, de plus en plus protégé dans son fief de l'Essonne. Après La République En Marche, c'est le PS qui, à défaut de l'investir, ne présentera aucun candidat contre l'ancien Premier ministre aux législatives. En revanche, Francis Lalanne, lui, a décidé de s'engager. Agacé par l'attitude de Manuel Valls, le musicien a décidé de se présenter en tant que suppléant de Jacques Bory, candidat indépendant dans la première circonscription, Évry-Corbeil, donc celle de Manuel Valls. La composition du gouvernement, elle sera dévoilée à 15h cet après-midi. L'annonce devait être faite hier soir. Elle a été finalement retardée. Le temps de procéder aux vérifications fiscales et déontologiques des futurs ministres. On notera que l'entourage de Nicolas Hulot faisait état hier soir de discussions avec Emmanuel Macron pour que l'écologiste entre au gouvernement, même si pour l'heure, rien n'est encore acté. Chaque jour, de nouvelles révélations viennent ternir un peu plus la crédibilité de Donald Trump. Après les révélations, on en parlait hier, du Washington Post sur la divulgation d'infos classifiées à un dirigeant russe, un ou des, le New York Times affirme aujourd'hui que le président américain a demandé en février à James Comey, qui était encore à l'époque directeur du FBI, de laisser tomber une enquête sur l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Face à la sécheresse qui persiste depuis cet hiver en Bretagne, la préfecture des Côtes-d'Armor a pris un arrêté rare visant à économiser l'eau potable. Désormais, entre 10h et 18h, il est interdit d'arroser les pelouses et jardins, les terrains de sport ou encore les champs de culture. Sur les écrans cinématographiques à partir d'aujourd'hui, entre autres, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël, c'est aussi ce film qui va inaugurer le 70e Festival de Cannes. Maria Sharapova ne sera pas présente à Roland-Garros. La Fédération française de tennis a refusé de valider sa participation, la participation de la vedette russe, de retour de suspension pour dopage. Ceci explique cela. C'est l'invitation qu'elle réclamait, donc de venir jouer à Roland-Garros. Elle aurait été l'une des favorites du tournoi parisien. Et puis en football, Monaco reçoit Saint-Etienne ce soir. C'est un match en retard de Ligue 1, l'occasion pour le club monégasque d'être sacré champion de France. Il leur suffit d'un match nul.
Merci à Jacques Souvent, à tout ce que vous êtes intimement. Jacques Souvent dans la rue, maintenant. Merci à Thierry Paré.
Mais on n'est plus vraiment dans la rue. Je suis avec Lilia qui travaille ses fessiers et ses cuisses. Bonjour Lilia.
Bonjour Lilia, vous êtes sur les... On n'est plus sur les abdos, là. On est sur les parties... on est sur les antérieurs, les postérieurs. On est fessiers-cuisses.
Les bas du corps, ouais.
Les adducteurs, le bas du corps. Fessiers-cuisses, c'est quoi? C'est l'idée de remuscler, assouplir, perdre du poids?
Les deux premiers, et puis le troisième, il vient avec, en fait.
Mais est-ce que c'est un ensemble? Est-ce que la cuisse se termine là où commence la fesse? Est-ce que la fesse se prolonge dans la cuisse? Pourquoi s'arrêter au genou? Et pourquoi ne pas aussi remonter le long du ventre et des...
Bah, en fait, il y a des exos qui vont faire travailler beaucoup une partie du corps et moins une autre partie. Mais au final, tout ce travail, c'est juste en fonction de là où on veut, sur quoi on veut se concentrer. Quoi.
Oui, ne déséquilibrez pas votre corps, si je peux me permettre. Ne travaillez pas juste une zone. Ciblez les priorités, bien sûr. J'ai été coach sportif de 63 à 76 pour l'équipe de Giscard. Et c'est grâce à ça qu'il a été élu, avec Michel Dornano, Michel Poniatowski, aussi Jean-Pierre Soisson. J'en ai fait des athlètes, des hommes qui après ont mené la France jusqu'en 81. Et là, les socialo-communistes sont arrivés, ont mis le pays à feu et à sang. Aujourd'hui, un espoir de droite se lève. Et dites-moi, alors est-ce que les adducteurs...
Les yeux étaient grands ouverts, là, quand vous écoutez, les yeux étaient
donc
grands ouverts.
On est sur le terrain public, on est en square, on est en rue, on est dans une salle qui est appropriée, je dirais, qui est vraiment dédiée à l'entretien physique.
Oui, c'est ça.
Vous êtes en salle, là, sport en salle. Devant le miroir.
Pas forcément devant, mais...
Une salle polyvalente qui fait aussi concert le soir et bingo pour les retraités le vendredi à 17h, non?
Une salle de muscu du lundi au dimanche.
Salle muscu, et les autres jours de la semaine?
Les autres jours de la semaine, entre lundi et dimanche, il se passe quoi?
Oui.
Bah, c'est du sport aussi, non?
Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça sue, ça transpire.
Non, pas tout. Non. Avec des pauses quand même, mais j'ai fait un petit peu 4-5 fois, mais c'est rare quand même de tout faire.
Sophie, vous êtes plutôt le genre de femme qui travaille face au miroir, avec un coach ou avec votre solitude ou avec une bande-son
avec
dans les oreilles?
Avec la solitude toujours et la bande-son.
Est-ce que vous pensez qu'on n'est jamais seul avec sa solitude?
Oula, c'est trop philosophique pour le matin, ça, mais on va essayer. Ça dépend des jours. Il y a des matins où t'as pas envie de parler. Et la musique, c'est bien, mais il y a des matins où... T'es d'humeur à parler aux gens, donc pourquoi pas.
Mais c'est une compagne, tu t'en es fait presque une amie de ta solitude ou pas?
Ah non, jamais de la vie, non. Ouais. C'est agréable de temps en temps, mais pas tout le temps quand même.
Mais c'est pas quelqu'un qui est devenu distinct de toi, tu dis tiens, je l'accueille, ma solitude, je la serre dans mes bras, je ne suis jamais seule avec ma solitude, comme le chantait le poète.
Mais c'est pas de la solitude en soi, c'est juste de la tranquillité de temps en temps. Mais je crois que la solitude, personne n'en a envie au final.
Non, je comprends, la tranquillité n'est pas la solitude, tu as entièrement raison. Comment va ton corps en ce moment?
Il reprend parce que ça fait 2 semaines que j'ai rien fait. Donc là, je reprends doucement, mais il va mieux depuis que j'ai repris.
C'est une pression sociale qui t'a amené au sport ou c'est un vrai désir personnel? C'est un rapport de toi à toi?
Il y a 5 ans, je dirais que c'était une pression sociale. Maintenant, c'est plus parce que je m'ai pris l'habitude et que ça me réveille le matin. Et que si je vais en stage ou autre sans être passé par là, je ne suis pas réveillée de la journée.
Et quel rapport entretiens-tu avec ton corps?
Très bien pour l'instant.
Vous entendez bien?
Oui.
Tu te regardes dans une classe, tu dis waouh, ouais, je suis quand même. Hein?
Non, pas tant que ça en fait, mais c'est le fait de les jours où tu fais du sport, tu as une meilleure relation avec lui que les jours où tu fais pas parce que tu as l'impression d'être engourdi. Donc psychologiquement, en fait, c'est plus psychologique que visuel.
Et puis ça crée des choses en in, j'ai oublié le nom,
l'endorphine qui redonne la patate.
Merci beaucoup, je te laisse. Bon sport, tu es dans quel tenue?
J'avais une dernière petite question. En petit legging, il y a des petites clés qui sont accrochées à la paire de baskets.
C'est les clés de mon casier.
Ne voyez pas, si je peux me permettre, je vois que souvent, vous voyez les choses trop petites. Petit legging, petite clé, je vais prendre mon petit café, mon petit train, je vais aller à mon petit boulot, et ensuite ma petite retraite peinard. Non, c'est pas comme ça la vie, Jacques Souvent. Non,
c'est pas comme ça.
La vie en grand, la vie en beau. Salut ma belle. Salut chérie.
Merci, au revoir.
7h-9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
Alors aujourd'hui, mercredi, les 8h15, je crois que c'est aujourd'hui que se lève le Festival de Cannes.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
Ombres et lumières, paillettes et poussières, exigences et futilités, montées et descentes, noir et blanc, couleurs, multicolores, hommes et femmes qui se pressent. Pourquoi ? Pour qui ? L'imaginaire a une capitale. C'est le Festival de Cannes. Bonjour Pierre Lescure.
Bonjour Edouard.
Pierre, vous êtes le Festival de Cannes d'une certaine façon puisque vous en êtes le président ?
Oui, puis que j'ai quasiment son âge, donc ça aide.
Il est né en 47 ?
Il est né en 46,
oui.
Il n'a pas eu lieu en 47, donc ça nous a mis 10e édition.
Alors Pierre, il y a un festival de Cannes du soir, de la nuit, qu'on connaît bien, qu'on voit à la télévision, il y a celui des salles et puis il y a celui du matin. Comment il se réveille le Festival de Cannes à 8h15 le matin, il en est où ?
Alors il en est que hier soir, il y avait le dîner du jury, qui se retrouvait pour la première fois. Donc on était sur une terrasse d'un grand hôtel face à la baie. C'était très beau. Les vins étaient choisis, ils étaient nombreux. Donc le matin, il y a un petit arrière-goût de grande qualité, mais qui mérite encore d'être ouvert, d'être rafraîchi.
Ça, oui.
Il faut huiler tout ça. Et pendant ce temps-là, la croisette, bruisse de toutes les constructions qu'on finit de peaufiner sur les plages. Il fait un temps, mais splendide. C'est un temps paradisiaque.
Il faut clouer les tapis, il faut broder les nœuds papillons, il faut brocher les chevelures. Mais j'imagine hier, cette réunion du jury, on a toujours l'impression dans les journaux que c'est une chose people, marketing. En fait, c'est aussi des talents incroyables qui ne se connaissent pas, qui vont passer une semaine ensemble.
C'est exactement cela. Il y avait quand même autour de la table le président Pedro Almodovar. Il y avait Paolo Sorrentino, il y avait Jessica Chastain, Park Chang-moon, qui n'avait pas rencontré encore grand monde, Agnès Jaoui, Maren Adé, qui avait triomphé l'année dernière, même si elle n'avait pas eu de prix, avec Tony Hellman. Il y avait Will Smith, Fan Bingbing, star chinoise qui vient pour la première fois sur la croisette, puis l'extraordinaire musicien qu'on aime bien tous les deux, Gabriel Yared.
Absolument.
Quand je dis tous les deux, c'est vous et moi. Et ces gens se rencontraient pour la première fois, ça parlait un peu en coréen, un peu en italien, un peu en espagnol, beaucoup en anglais, français évidemment. Et ça parlait vachement organisation. Pedro Almodovar disait, moi j'ai besoin de dormir 7 heures par nuit. Donc vous êtes gentil, je ne ferai pas forcément la séance de 8 heures.
Oui, il y a une séance normalement à 8 heures du matin pour pouvoir les filmer.
Ouais.
Oui, mais alors c'est vrai que ça le change parce qu'Almodovar, il n'a pas du tout toujours dire ça, qu'il a besoin de 7 heures par nuit. Il doit avoir du sommeil en retard. Mais comment ils font les uns les autres? Comment ça se passe? Qui fait le premier pas? De quoi? Vous savez, on imagine toujours, c'est comme en politique, on se dit quand deux grands dirigeants se rencontrent, quelle est la première phrase? Genre ça va, tiens, t'aimes aussi ça, tiens, il fait beau.
Première phrase, ça a été une vanne de Will Smith qui a dit « Je suis le plus intellectuel de tous, donc je vais faire un scandale ». Et ça a détendu tout le monde. Et après, tout le monde s'est parlé joliment.
Oui, parce
non,
que
bien.
Donc il n'y a pas de guerre d'ego, dire c'est à vous de venir vers moi et non pas à moi de venir vers vous.
Non. C'est là qu'on voit que le cinéma est fait par des gens qui vont énormément au cinéma. C'est que tout le monde a une image de l'autre et donc est heureux de le rencontrer et de voir les femmes comme les hommes regarder le bon regard, même un peu inquiet de Pedro Almodovar, c'était assez émouvant. Parce que les quatre femmes qui étaient là regardaient Almodovar avec à la fois amour artistique et reconnaissance féminine. C'était vachement joli.
Alors, puisqu'on est le matin, Continuons juste sur ce festival de Cannes le matin, qui est peut-être le plus émouvant, puisque c'est là où vraiment les types qui ont réussi miraculeusement à se faire accréditer vont à cette séance de 8 heures, vont voir des films très tôt le matin parce qu'il y a moins de monde. Et là, c'est l'atmosphère la plus cinéphile le matin, non ?
C'est l'atmosphère la plus cinéphile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les journalistes, mais vous le savez bien, ne font pas la fête toute la nuit. Il y en a quelques-uns qui enchaînent directement, mais ça, c'était quand même l'old school, directement d'une boîte ou d'un appartement où on a fêté je ne sais quoi, directement pour la projection. Mais 9 personnes sur 10 qui est à 8 heures avec son petit sac du Festival de Cannes, son iPhone et ses notes toutes prêtes, à être noircis, ces gens-là, c'est des vrais cinéphiles. Ils sont prêts à s'enflammer, ils sont prêts à se scandaliser, mais il y a un amour qui fait plaisir à voir.
Il y a un amour et donc forcément une colère quand cet amour est déçu, quoi. D'où cette électricité, quoi, hein, ça chauffe.
Exactement.
Ça commence à s'engueuler tôt dès la sortie du film de 8 heures. Putain, c'est de la merde, il s'est foutu de nous.
Alors ça me gêne pas. Ce qui me gêne plus, c'est s'il commence à y avoir un texto ou un tweet dès la 8e minute de projection.
Ah oui,
dehors. Là, dehors. Mais je crois qu'ils le font plus parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes que un tweet en pleine projection, c'est quand même un peu vulgaire.
Ah, il y avait ça, du genre, qu'est-ce que je me fais chier, on s'aperçoit que le film vient de commencer.
Voilà, c'est arrivé une ou deux fois, et on a repéré les fautifs, ils se sont sentis un peu merdeux, quoi.
Bon, Pierre, merci, c'est ce soir, vous allez donc accueillir les gens aux démarches, vous allez être gentil ?
Ah ben oui, gentil parce qu'ému, franchement. C'est ça aussi, rester gamin, c'est être ému devant un écran où le film va démarrer, puis être ému en voyant monter ces gens de toute génération.
Vous allez embrasser des dames ?
Oh, j'espère, oui. Ouais. Quelques mecs.
Bon, bah on est content de vous savoir là-bas, ça rajoute de l'enfance et de l'enthousiasme.
Mais j'espère que vous passerez, parce que, comme dit l'autre, on est ouvert la nuit.
Merci Pierre, je passerai, mais pour le travail, pour Radio Nova, je viendrai faire 2 émissions directes, mais c'est uniquement pour ça, vous pensez bien.
Le tien.
Merci Pierre Lescure, salut Pierre.
Salut Edouard.
À bientôt.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Edouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Tu vois, j'ai des bras partout, partout, des bras partout, comme Marie Missé, à la tête pleine de bras. Marie, bonjour.
Oui. Plein de bras.
Tout de suite, votre petit générique que vous aimez.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour.
Quoi de neuf ?
Alors, figurez-vous qu'il y a une presse turf incroyable. J'ai remarqué ça ce matin, je m'étais jamais intéressée à ça. Et là, j'ai remarqué que Spirit's Revenge était le cheval sur lequel miser.
D'accord, vous voulez nous dire que vous avez renoncé pour quelques jours. Vous êtes étouffé par la politique, vous êtes parti dans le cheval.
Alors non, j'ai fait une petite excursion cheval, mais je vais revenir évidemment à la politique. En tout cas, si vous voulez miser sur un cheval, c'est Spirit's Revenge apparemment qu'il faut suivre. Il est en une d'au moins 3 magazines sur les courses de chevaux. Voilà, autrement, dans la presse, Donald Trump a encore fait une bêtise. Libé en fait ça une. Il a donné des infos classées secret défense de plus haut niveau au ministre russe des Affaires étrangères. Alors en soi, il a le droit, hein. C'est le classificateur suprême des secrets d'État, le président des États-Unis. Mais le Washington Post explique qu'il se serait vanté d'avoir des infos secrètes. Le New York Times estime pénible que le monde soit dirigé par un enfant de 7 ans qui cherche à tout prix l'approbation de ceux qui l'admirent. Et Libé renchérit, Amérique cherche babysitter. Pendant ce temps-là, nous disent Libé et le Parisien, les Républicains commencent à avoir un peu de mal à soutenir leur champion. Des Républicains qui ont du mal. Hein. Bah, c'est aussi notre actualité en France. La une du Monde, du Figaro, de l'Express. Macron chamboule tout. Macron le dynamiteur. Macron l'onde de choc qui fout le bordel à droite. Du pain béni pour ceux qui aiment le bordel, le dawa, la castagne, quand ça se secoue et que ça se fracasse. Et ça tombe bien, Edouard, le film présenté en ouverture du Festival de Cannes aujourd'hui. Et de cela, dans Libé, on lit qu'Arnaud Desplechin a construit son film « Les fantômes d'Ismaël » comme une pile d'assiettes de fiction qu'il fracasse à l'écran. Un modèle qui ne vaut que si on les balance si violemment qu'il est ensuite impossible de recoller les morceaux, nous dit Libé, qui termine son article sur ces jolis mots. Il y a encore des films pour vous entraîner violemment dans la vie qui n'a pour toute qualité que le spectacle génial de son imperfection.
Wow.
L'imperfection. Elle est belle, tout à fait. Elle m'a tapé dans l'œil.
On peut dire le contraire est vrai aussi.
C'est vrai. Et vice versa.
Certaines phrases de Libère me disent c'est formidable, mais le contraire est vrai.
Et l'impureté, l'imperfection, le bordel, c'est beau, comme l'histoire même de la race humaine. La découverte d'un petit hominidé dans les grottes profondes proches de Johannesburg bouscule encore l'idée qu'on se faisait de l'évolution humaine. La question que ces squelettes posent, c'est est-ce que l'homo naledi, si archaïque, avait déjà des rites funéraires ? Subsidiairement, deuxième question, est-ce que l'homo naledi a fréquenté le sapiens ? Se sont-ils dit coucou ? Se sont-ils mélangés ? Dans le supplément Science du Monde, on nous explique que ça fait longtemps qu'on a abandonné les récits simples sur la trajectoire de l'évolution humaine, longtemps qu'on a remarqué que tout était bien emberlificoté et que notre patrimoine génétique disait les rencontres entre sapiens, Néandertal, Hobbit de l'île de Flore et peut-être donc Homo Nalendi. Le géomorphologue Laurent Bruxelles conclut, tout reste à découvrir, on est en train d'écrire une histoire beaucoup plus compliquée que prévu. Des histoires compliquées qui montrent qu'à moins de regarder de près, on n'y comprend rien. Et quand on regarde de près, on y comprend encore moins. C'est le cas de celle racontée dans un très beau reportage de la revue Feuilleton, très bien écrit avec des belles photos en plus, sur la guerre qui continue à tuer dans une indifférence capricieuse en Ukraine. Le reportage est de Guillaume Chauvin, il s'appelle « Guerre épaisse ». On y croise des Français, des boulangers, des militaires, des mecs presque lambda qui meurent du côté russe, engagés dans un conflit loin de chez eux, qu'on peine à cerner, qu'on peine à comprendre, qu'ils peinent à comprendre, que plus personne ne regarde. Un conflit pour lequel certains meurent sans trop savoir pourquoi, alors qu'ils fuyaient le sentiment de vivre sans trop savoir pourquoi non plus, alors que des habitants sur les murs ukrainiens écrivent « Il y a des gens qui vivent ici ». Un constat qu'on pourrait étendre à la planète. « Il y a des gens qui vivent ici ». C'est beau, mais c'est pas simple.
Merci Marie Missé.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes, cotes, cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Thierry Paret nous propose à 8h32 un rappel des titres de l'information.
Bijoux.
Bonjour, sur les écrans cinématographiques ce mercredi, entre autres le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël, c'est aussi ce film qui va inaugurer le 70e Festival de Cannes. La composition du gouvernement sera dévoilée à 15h cet après-midi, l'annonce devait être faite hier mais elle a été finalement retardée, le temps de procéder aux vérifications fiscales et déontologiques des futurs ministres. On notera que l'entourage de Nicolas Hulot faisait état hier soir de discussions avec Emmanuel Macron pour que l'écologiste entre au gouvernement. Alors pour l'heure, il y a rien n'est acté. Hein. 362, c'est le nombre de députés sortants, candidats leur propre succession, 362 donc sur 577. Autrement dit, plus d'un député sortant sur trois ne sera pas candidat aux législatives des 11 et 18 juin. Il y aura donc nombre de nouvelles têtes lors de la rentrée parlementaire. Le ton monte au sein de la droite entre ceux qui acceptent la main tendue par le chef de l'État et ceux qui la refusent. Tous les candidats LR, UDI aux législatives sont invités à signer un appel contre le projet du mouvement La République en marche. Marie-Arlette Carlotti renonce à se présenter à Marseille. La députée PS claque la porte de son parti sans même avoir prévenu son équipe de campagne. Dans une lettre d'explication envoyée aux médias, elle écrit « Ça fatigue et fustige les divisions de son camp. Les Français appellent à un profond renouvellement de la vie publique, un dépassement des partis », écrit la députée. Je les ai entendus. Je ne ferai pas le combat de trop. Marie-Arlette Carlotti tacle aussi Emmanuel Macron, critiquant les aventures individuelles et le culte de l'homme providentiel auquel elle préfère le projet collectif. Chaque jour, de nouvelles révélations viennent ternir un petit peu plus la crédibilité de Donald Trump après les révélations du Washington Post, dont on parlait hier matin, sur la divulgation d'infos classifiées à un ou des dirigeants russes. Le New York Times affirme que le président américain a demandé en février à James Comey, qui était encore directeur du FBI, de laisser tomber une enquête sur l'ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn. Maria Sharapova ne sera pas présente à Roland-Garros. La Fédération française de tennis a refusé de valider sa participation, la participation de la vedette russe, de retour de suspension pour dopage. Et puis en football, Monaco reçoit Saint-Etienne ce soir. Match en retard de Ligue 1, l'occasion pour le club monégasque d'être sacré champion de France. Un match nul suffira.
Mais t'as pété un câble ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais Thierry Paret, vous êtes devenu... Mais
pourquoi ?
Hein, Arnaud ?
Je suis effondré.
Ah non, pardon, mais vous rendez plus compte, quoi.
Mais ça va pas, non ?
Mais ça va pas, mon vieux.
Ah bah, je suis confus.
Ben non, puisque vous vous rendez même plus compte.
Ah non, j'ai moi, pas j'ai fait plus attention.
De... C'est dingue, moi j'ai, je sais plus quoi dire, quoi.
Pub.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Ah, ah.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Non.
Ça... Qui chante ?
J'ai pas fait attention. Manu,
C'est Pascal Parizeau.
C'est Pascal Parizeau, mais je crois qu'il faut le dire. Hervé Bourges, bonjour.
Bonjour.
Quelle vie, Hervé Bourges, quand même. Donc ça va de la guerre d'Algérie, même l'Algérie avant la guerre d'Algérie, l'accompagnement, Ben Bella, Yaoundé, le journalisme, TF1, premier patron du CSA, on va revenir sur tout ça. Il y a juste un tout petit assemblage qui est joli, on vous entend avec Césaire et Saint-Gore que nous a fait Charlène.
Mais vous avez cru à quoi dans votre royaume d'enfance?
Mais je croyais d'abord à ce que nous appellerons plus tard la négritude.
Saint-Gore n'a jamais douté, il n'a jamais été déchiré.
J'étais fier d'être noir.
C'est l'Afrique éternelle, avec sa noblesse, avec sa dignité, avec son histoire.
Et j'ai toujours défendu la civilisation négro-africaine.
L'Afrique avec son humanité, sa philosophie, sa sagesse. Et je pourrais presque dire que m'apportant cela, il m'apportait aussi la clé de moi-même. C'est l'Afrique en elle-même telle que l'éternité la pense.
Si vous ne deviez retenir qu'un mot pour décrire l'Afrique.
Vous savez, j'en ferai deux entrées, la patience et la fraternité. Et j'ai appris là-bas la patience et j'ai pratiqué la fraternité.
Merci Hervé Bourges.
Je vous en prie.
La patience et la fraternité.
Oui.
C'est pas mal.
Oui, j'ai appris ça en Afrique. Vous avez passé Césaire et Saint-Gore. Le discours sur le colonialisme de Césaire est un des plus beaux textes de la littérature française. Quant à Saint-Gore, c'est quelqu'un pour lequel j'ai eu la plus grande admiration. Je me souviens qu'avoir été à ses obsèques, c'était mon 75e voyage à Dakar. Il n'y avait ni le président de la République, ni le Premier ministre français qui lui ont manqué ce jour-là. Et nous avions tous eu un peu honte. Oui, la patience en Afrique, c'est quelque chose que j'ai appris. J'étais un naturel plutôt... Je n'aimais pas attendre trop longtemps. Et là-bas, il faut savoir attendre, prendre son temps. Et puis la fraternité, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus ici en France. Les gens vivent chacun pour soi, entre soi, hein, on le voit bien. Aujourd'hui, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau culturel, à tous les niveaux possibles. Et voilà, il y a une chose qui m'avait d'ailleurs beaucoup frappé. J'ai 84 ans depuis le 2 mai. Et en Afrique, je n'ai jamais vu un vieux aller dans un asile ou dans une maison de retraite. Les vieux meurent à la maison. Ici, ce n'est pas le cas.
Alors la fraternité, c'est vrai, c'est ce que disait d'ailleurs le fameux évêque brésilien d'Oelder Camara. Il disait, c'est la plus belle devise du monde, la devise de la République française, parce qu'il y a le mot fraternité. Parce que liberté, égalité, ça se retrouve dans beaucoup de pays. Mais l'idée de mettre la fraternité comme ça au-dessus, accolée à la République, c'était quand même une très belle idée. Cher Hervé Bourges, le dictionnaire amoureux de l'Afrique, c'est un peu la somme, c'est ça, de toute votre vie, tout votre parcours qui a commencé très tôt avec l'Algérie, parce que vous avez même la double citoyenneté, vous êtes français-algérien.
Oui, c'est vrai, je suis français d'abord, je suis breton.
Mais enfin, on vous a donné comme ça pour vous remercier.
On me l'a donné pour me remercier d'aider l'Algérie indépendante. Bon, ben, c'est pas quelque chose que j'allais refuser d'un revers de main, bien sûr, ben, c'est très bien, ça me sert pas à grand-chose.
Non, mais enfin, dans ce sens-là, c'est rare, c'est que quand on parle de double nationalité, on imagine rarement ce côté-là.
Oui, non, non. Bon, mais
vous n'avez pas une envie de vous enfuir.
C'est vrai, j'ai été en Algérie au premier temps de l'indépendance à la suite d'une demande du président Ben Bella, dont j'avais été le geôlier. Je rappelle ça très, très vite. J'ai été au cabinet d'Edmond Michelet, qui était un grand résistant, déporté de Dachau, ministre d'État du général de Gaulle, ministre de la Justice. Et il m'avait demandé, c'était dans les années 60, on allait vers des négociations avec le FLN, et Michelet m'a demandé de venir à son cabinet. Et j'allais toutes les semaines à Turquan voir Aït Ahmed, Ben Bella, Kider, Boudiaf et Bitat, dont l'avion avait été arraisonné par l'armée française le 20 octobre 1956. Premier acte de piraterie internationale, d'ailleurs. Et je les ai vus. Il se trouve qu'après l'indépendance, je reçois un coup de téléphone d'Ahmed Ben Bella qui me dit « Vous connaissez bien l'administration, je vais devenir le président de la République, venez m'aider, je vous ai connu, j'ai confiance en vous. » C'était folie. J'étais jeune, j'y suis allé, je suis parti. Et j'ai vécu là-bas de 1962 à 1967, qui ont été des années pour moi réjouissantes. Je ne me suis pas mêlé de politique intérieure, bien évidemment. Je me suis occupé de la formation des journalistes. Je suis heureux de constater qu'aujourd'hui encore, même si ce n'est pas une presse toujours très indépendante, il y a quand même des journaux très indépendants, il y a 25 quotidiens en langue française en Algérie. Les gens l'ignorent, ils disent l'Algérie, c'est la langue arabe. 25 quotidiens, avec parfois des tirages de 100 000 exemplaires. Or, on sait très bien que la liberté de la presse, ben, c'est pour les journalistes la liberté d'exercer leur métier comme ils l'entendent, mais c'est aussi un pouvoir d'achat pour que les gens achètent le journal et des gens qui ont été scolarisés qui peuvent lire le journal. Donc ce pays réunit ces conditions, même si cette liberté est relative pour un certain nombre de quotidiens.
Alors ça a commencé là un peu votre lien à l'Afrique. Là, aujourd'hui, vous sortez un dictionnaire amoureux de l'Afrique chez Plon. J'adore cette série, là, le dictionnaire amoureux. Je trouve ça absolument magnifique.
Très belle, oui.
Des dictionnaires subjectifs, le dictionnaire de quelqu'un, l'amour de quelqu'un pour un sujet qui lui fait raconter des histoires qui le lie à ce sujet. Là, c'est votre Afrique à vous. Ensuite, vous y êtes revenu puisque vous avez monté une école de journalisme à Yaoundé. Là, c'est quand même deux Afriques très différentes, évidemment, le Cameroun et l'Algérie.
Ah, totalement différent, strictement rien à voir. Sinon, qu'il y a eu un mouvement révolutionnaire très important au Cameroun, qui s'appelait l'Union des populations camerounaises, dont les leaders ont été liquidés à l'époque par l'armée française et par les pouvoirs camerounais naissants. Et il se trouve que j'ai même assisté personnellement à l'exécution sur la place publique du dernier révolutionnaire camerounais, qui était Ernest Ouandié. Je dirigeais alors l'école internationale de journalisme de Yaoundé, à la demande de 6 États africains. Et j'étais à Bafoussam, qui est dans le pays Bamileke, avec mes étudiants pour faire des études sur le terrain. Hein. On n'est pas journaliste si on ne parcourt pas le terrain, si on n'en est pas imprégné. Et puis tout à coup, on voit arriver un camion, on descend du camion, un type qu'on met contre un mur, il est fusillé, il est mort dignement, c'était Ouandié. Je dis ça en passant parce que beaucoup de gens ignorent cette partie de l'histoire du Cameroun. Et j'ai passé effectivement de 1970 à 1976, 6 ans, où j'ai essayé d'apprendre aux journalistes à savoir écrire, à savoir communiquer et à savoir se battre jusqu'au bout pour garder leur indépendance, en essayant de faire que les journalistes ne soient ni des griots serviles, ni des opposants stériles.
Exactement.
Alors ce lien-là de la France à l'Afrique a duré donc bien après les colonies, qui a été théorisé, enfin qui est maintenant qu'on appelle la France-Afrique. Ça n'est pas, c'est très caricaturé. On a l'impression que la France-Afrique aujourd'hui c'est simplement une façon de dire que la France continue. Ça serait une forme de néocolonialisme. Alors qu'à l'époque c'était pas ça. Je crois que c'est un mot de Houphouët Boigny. C'était une façon de continuer à travailler ensemble. C'était pas l'idée que la France ait exploité souterrainement l'Afrique après l'indépendance.
Ah oui, c'est un mot qui a été inventé par le président Houphouët Boigny, qui était le premier président de la Côte d'Ivoire. Il a dit, France et Afrique, on est les mêmes, etc. Puis ça a été ensuite détourné par tous ceux qui en ont profité.
Alors il y a tout un chapitre sur les réseaux Focard et tout ça dans votre livre.
Mais ça a été... Alors aujourd'hui, je crois, avec Hollande, ça a commencé à prendre des distances à l'égard de cette politique-là, à dire les Africains doivent être totalement indépendants, même si nous pouvons dire ce que nous en pensons, mais nous n'avons pas à intervenir directement et nous n'avons pas non plus à profiter de certaines situations. Alors on est loin d'avoir quitté ces relations un peu incestueuses, mais et je suis moi d'ailleurs pour de relations entre la France et l'Afrique saine. Simplement il faut savoir qu'aujourd'hui avec la mondialisation, qu'on le veuille ou non, comme le disait le président guinéen qui était reçu en voyage officiel il y a quelques jours, c'était à la fin du mandat de François Hollande, il a osé dire au cours du repas officiel dans son discours, ça a été plus ou moins censuré, d'ailleurs je n'ai pas vu beaucoup reprendre ça par la presse, vous savez, je pense que vous avez plus besoin de l'Afrique que nous n'avons besoin de vous. C'était assez terrible, une phrase comme celle-là. Mais qui voulait simplement dire qu'aujourd'hui, il y a les Chinois, il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a les Turcs, il y a le Japon, nouvellement arrivé, qui sont dans ces pays, parce que dans ces pays, il y a des matières premières. Et puis, il y a un taux de croissance que beaucoup de pays européens souhaiteraient avoir. Le taux de croissance moyen en Afrique actuellement est de 4 à 5 %. Certains vont même jusqu'à 7, 8 ou 10 %. Il y a des pays qui se développent. Et il y a surtout, à côté de zones misérables, bien sûr, à côté de rivalités, d'instabilité de pouvoir, il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger et qui va jouer, à mon avis, un rôle important. Et moi, je pense que l'Afrique a un devenir mondial important.
Alors, on va écouter une chanson de Nina Simone que vous alliez voir à Carrie Leroy à la fin de sa vie, sans doute même avant. À tout de suite, cher Hervé Bourges.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peu s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment
oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfumais des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser.
Il y a des reprises comme ça qui sont aussi belles que des créations.
Ah, extraordinaire. Bon, on aime bien la chanson chantée par Brel, bien sûr, mais chantée par Nina Simone. Moi, je n'aime que les chanteurs qui ont une voix. Nina Simone a une voix particulière. Myriam Makeba, que j'ai bien connue aussi, a été aussi une autre voix. Ça, ce sont des voix qui n'ont rien à voir avec ceux qui susurrent aujourd'hui la même chose. Des textes, d'ailleurs, qu'il faut prêter l'oreille pour comprendre ce qu'ils disent, dans un français qui est approximatif.
Et non, c'est fini de dire du mal, bon, oui.
Alors que vous avez des grandes voix comme celle-là. Et puis, alors, quand même... La langue française et la francophonie. Je suis un militant de la langue française et de la francophonie. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est, s'il n'y avait pas l'Afrique, s'il n'y avait pas le Québec et s'il n'y avait pas les Belges, notre langue serait en piteux état. C'est pas moi qui le dis, c'est Abdou Diouf qui était le président du Sénégal et l'ancien secrétaire général de la francophonie. Je dois dire que personnellement, j'ai toujours lutté là où j'ai été contre ceux qui méprisent notre langue en pensant que l'anglais est une langue universelle, alors que le français est une langue de culture, une langue de partage et une langue qui a des valeurs que n'a pas la langue anglaise.
En tout cas, l'un des bonheurs, c'est vrai que quand on est français de France, de se balader en Afrique, c'est ça, c'est ce miracle de la francophonie et de cette langue qui est autant la leur dans beaucoup de pays que la nôtre. Ça, à chaque fois, ça me bouleverse. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que ça existe, l'Afrique? Vous êtes dictionnaire amoureux de l'Afrique, c'est que vous sortez Hervé Bourges. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun de Casablanca à Dakar, de Bamako à Johannesburg? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'Afrique?
C'est la conscience, d'abord, d'appartenir à un même continent, avec des cultures et des histoires différentes. Il est certain que l'Afrique noire, l'Afrique maghrébine, l'Afrique égyptienne sont des Afriques différentes. Mais il y a cette volonté de pouvoir exister par soi-même. Et je dirais que la lutte pour les indépendances en Afrique a soudé les pays africains. Je vais même vous dire une chose, je l'ai dit ici en passant, c'est lié à l'actualité. Notre actuel président de la République, et j'espère qu'il réussira dans sa tâche, a été à Alger il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez. Il a fait une déclaration qui a fait beaucoup de bruit ici. Il a dit que le colonialisme était un crime contre l'humanité. Ici, tout le monde a hurlé, les harkis, enfin, ou ceux qui en restent, ou ceux qui les représentent, les pieds noirs, puis des gens qui ont souffert des problèmes de la décolonisation ont hurlé. Et le président de la République, prudent, a fait un petit peu machine arrière sans renier ce qu'il avait dit. Je peux vous dire, ça fait un bruit incroyable en Afrique. Personnellement, j'ai reçu une quinzaine de coups de téléphone de responsables, de journalistes, etc., de chefs d'État, hein, d'Afrique de l'Ouest et un du Maghreb, qui m'ont téléphoné pour me dire « mais c'est formidable, voilà enfin un chef d'État français qui reconnaît ça, on va pouvoir établir avec la France des relations différentes ». Je vous le dis comme ça en passant.
C'est formidable en fait, parfois, l'idée qu'une phrase comme ça débloque autant de choses. Voilà. Tout n'est pas économique dans la vie.
Non, tout n'est pas économique.
Ça c'est formidable.
Est-ce que je peux rebondir Rachel juste Kahn, un instant? Oui. Moi, je suis très émue de ce moment-là de radio, Hervé Bourges. On a parlé de vos valeurs. Moi, ce qui me touche vraiment dans votre africanité, c'est cette transmission, ce que vous nous offrez, ce que vous nous avez offert dans votre vie. Pour nous, afro-européens,
c'est absolument considérable. Moi, je suis riche de votre héritage. Et que ce dictionnaire amoureux, finalement, c'est vos mots d'amour sur l'Afrique. Ça aide l'Afrique à mieux s'aimer aussi. Et je voulais vous déclarer ma flamme ce matin.
J'en ai de la chance.
En vous disant que dans votre œil, il y a le chemin de la vie. Et que, voilà, sur ce chemin-là, j'espère aussi, et nous espérons construire ce que vous avez semé.
C'est formidable qu'on puisse se trouver dans une radio comme Radio Nova pour dire des choses pareilles et entendre des choses pareilles. Merci.
Allez donc, je garde l'antenne. Je serais trop facile de mettre un disque après ça. Justement, il y a plein de choses qui reviennent. Il y a des phrases toutes faites, des idées qu'on se fait. Là, il y a une façon dans le compliment, dans l'art oral de Rachel Kahn. C'est une idée qu'on se fait aussi de l'Afrique sur la palabre, la conversation, le sens des mots. Est-ce que il y a vraiment une chose unique là-dessus? Là, vous décrivez dans le dictionnaire amoureux des nuits mauritaniennes au fond du désert où tout à coup on réinvente le monde sous les étoiles. Est-ce que c'est quelque chose qui dure et qui est très différent que des autres continents?
Ah, c'est très différent. Il existe dans chaque village ce qu'on appelle un arbre à palabre. L'arbre palabre, c'est en général dans le pays d'Afrique de l'Ouest, le baobab, un arbre éternel, magnifique, qui protège du soleil et qui en même temps est un instrument de vie. Et les sages se réunissent et réunissent les gens autour pour discuter de problèmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chefs d'État, mais vous n'avez pas un chef d'État qui ne consulte les sages de ces villages pour leur demander leur avis. Et vous avez des sages de village qui ont souvent beaucoup plus d'influence que les hommes politiques. Et ce qui est très important, bon, la palabre, c'est pas, y passer beaucoup de temps et nous sommes pressés, mais souvent on trouve des solutions positives en discutant autour de cet arbre. Et ça, j'ai appris donc la patience au travers de cela. Alors bien sûr, il y a des conversations qui ne mènent à rien, mais en Afrique, ils mènent toujours à quelque chose et c'est ça qui est important. J'ai appris ça, ça m'a permis, quand j'ai exercé des responsabilités dans l'audiovisuel français, de savoir prendre mon temps tout en sachant décider le moment venu, mais après avoir entendu et avoir eu la patience.
C'est pas mal les choses qui ne mènent à rien, de toute façon. On dit quand même que je ne sais pas où en aller, mais Dieu que le chemin était beau.
Oui, mais que la route est longue.
Bon, il y a mille autres choses, j'aurais aimé vous parler de l'irrationnel, parce que ça me fascine aussi, oui. Un continent qui accepte le rapport à l'irrationnel.
Oui, l'irrationnel, ça c'est sûr. Nous sommes tous des êtres rationnels. Moi le premier, il y a des tas de choses qui en Afrique m'agacaient. Le problème dit de la sorcellerie. Bon, la sorcellerie continue d'exister. Moi je suis très opposé à la sorcellerie parce qu'on fait faire n'importe quoi aux gens. Mais en même temps, les gens croient tellement à des êtres supérieurs, au-delà même de la religion qu'ils pratiquent. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens en Afrique, comme il y a beaucoup de musulmans, mais ils sont en même temps attachés à des tas d'autres petites religions qui leur apprennent à vivre autrement.
Enfin, il y a mille choses. Écoutez, Hervé Bourgelin, et là, je dois finir. Mais enfin, Dictionnaire amoureux de l'Afrique, c'est chez Plon. Il y a tout, c'est une somme comme ça d'informations, de souvenirs, de rêves, d'ouverture sur l'avenir. C'est formidable. Merci d'être passé.
C'est moi qui vous remercie. Et d'histoire aussi, hein, c'est un livre pédagogique.
Absolument.
Merci. Je suis très heureux de m'entourer à Radio Nova, qui est une radio que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et enfin, une radio qui parle français et qui s'occupe de passer des musiques du Sud, hein, plutôt de plus en plus rares.
Salut, merci beaucoup.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi. Édouard Baird.
Ammoniaca, là, ça devrait être le moment de Yacine et Thomas de s'installer pour être en glorieuse, mais tu voulais nous dire juste au revoir.
Oui.
Parce que tu es parti au Festival de Cannes, je crois. Mmh. Hein, tu allais présenter un film, tu es parti ce matin. Qu'est-ce que tu allais montrer?
Montrer aux gens mon nouveau film.
Qu'est-ce que c'est?
C'est Jamais sans ma poule.
Mais c'est pas sélectionné, ça?
Si. C'est sélectionné dans la sélection des racontes. Enfin, il y a un festival de Cannes sous Cannes, à l'intérieur de Cannes. C'est le festival underground de Cannes, où c'est dans les égouts de Cannes. Et c'est là que j'ai été sélectionné. C'est une sorte de film comme La vache chez le prisonnier, mais avec une poule.
Et pas de prisonnier.
Si, c'est moi. J'étais prisonnier de bon, on sait pas, on comprend pas bien parce que c'est un film en noir et blanc, mais j'étais prisonnier grâce à une poule qui devient mon amie. Au début, on n'arrive pas à communiquer, puis après, on arrive et on fait des blagues.
Tu veux dire qu'on est tous prisonniers, peut-être, de nos certitudes, de nos...
Oui, je pense qu'on est tous prisonniers de ce qu'on nous, fait croire, dans un sens.
On a pris 4 minutes des 30 Glorieuses pour annoncer ce film. C'est dans les caves de Cannes, dans les églises.
Dans les caves de Cannes.
Merci, Monica.
Merci à toi, Edouard.
Allez, gros gros béco.
Gros béco, oui, à toi bien aussi. Sûr. Aussi
bien. Petit générique de fin.
Mignon, mignon. Mignon, 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 mignon. Ammoniacal.
À demain, quant à nous.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.